et que l'on puisse ainsi avoir une complète compréhension de ce qu'a été l'État islamique et à quel point un certain nombre de ressortissants français, c'est terrible à dire, mais ont participé à l'ensemble des exactions de l'État islamique. On pense souvent aux combattants, mais vous savez que c'est un autre enjeu de jugement que nous avons aujourd'hui, mais aussi aux femmes qui ont rejoint, femmes françaises qui ont rejoint l'État islamique et qui, pour nombre d'entre elles, même si elles tentent aujourd'hui à essayer de se montrer très en recul, ont participé à toutes les exactions, y compris celles d'esclavagisme des membres de cette communauté.
Merci Olivier Christen d'avoir répondu aux questions de RFI.
Merci de votre invitation.
Le procureur de la République antiterroriste en France, il répondait aux questions d'Arnaud.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Que vous inspire le sort réservé à Mohamed Bazoum? 2 ans et demi après le coup d'État au Niger, le président renversé est toujours retenu par les militaires. Pour la 2e fois, le Parlement européen a adopté une résolution condamnant sa détention et appelant à sa libération.
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
A tout à l'heure sur RFI.
Le Salon du Livre Africain de Paris revient les 21 et 22 mars. Un rendez-vous pour tous les amoureux de la littérature sur le thème de la jeunesse africaine, avec comme pays invité spécial l'Angola. Au programme, rencontres, dédicaces, conférences, tables rondes et remises de prix littéraires en accès libre. Le Salon du Livre Africain de Paris, les 21 et 22 mars. Plus d'informations sur salondulivreafricaindeparis.com en partenariat avec RFI.
Ce lundi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Frédéric Lebel.
Dans l'est de l'Ukraine, Moscou ne se contente pas de délivrer des passeports russes aux habitants pour marquer son emprise. Les noms des Russes ont changé, les récits historiques modifiés. On n'hésite pas à comparer la guerre en Ukraine et la Seconde Guerre mondiale.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 17h10 TU sur RFI.
RFI, 7h30 à Brazzaville et Paris, 6h30 à Nouakchott et Rabat. Édouard Dupénoat, en Mauritanie, le protectionnisme face à la guerre au Moyen-Orient.
Oui, c'est à la une de cette édition où l'on continue donc d'observer les différentes stratégies sur le continent africain face à ce conflit. Avec Nouakchott qui choisit de fermer ses frontières, il est interdit de faire sortir du pays des denrées alimentaires. De très nombreuses associations et ONG maliennes inquiètent à l'idée d'une possible nouvelle taxe décidée en Conseil des ministres. Ces associations redoutent en fait des conséquences désastreuses pour les populations vulnérables. Le procès en appel des supporters sénégalais de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football, il commence aujourd'hui au Maroc devant le tribunal de Rabat.
Le climat se réchauffe, il touche déjà notre quotidien.
Et le dossier de ce journal ne parle ni d'ouragan démentiel ni de sécheresse infernale, mais simplement de ce mercure insoutenable, celui qui met en danger même les mieux portants d'entre nous pour des activités quotidiennes.
Au 17e jour de la guerre au Moyen-Orient, de nombreux pays africains continuent de se préparer aux secousses potentielles.
Qu'il s'agisse des prix des carburants déjà largement en hausse ou bien des inquiétudes sur les importations, le commerce de denrées alimentaires. On explorait ces derniers jours par exemple les conséquences sur les prix de l'urée, engrais absolument essentiel. On regarde ce matin du côté de la Mauritanie. Depuis 10 jours, il n'est plus autorisé d'exporter hors du pays des denrées alimentaires. L'objectif affiché, c'est de garantir des stocks suffisants et donc des prix convenables, surtout en cette période de fin du Ramadan. Reportage de notre correspondant sur place, Oumar El Hadjtiam.
Aux frontières mauritaniennes, les forces de sécurité ont reçu des consignes claires. Aucune denrée alimentaire ne doit passer. Qu'il s'agisse de transit ou de produits locaux, le blocage est total. Pour Hussein Meddou, porte-parole du gouvernement, la mesure est provisoire, le temps de garantir une protection maximale des produits.
L'objectif principal est de maintenir un stock et une réserve permanente de produits alimentaires et énergétiques dans le pays. Dans certains cas, les chaînes d'approvisionnement mondiales subissent des interruptions, ce qui pose des problèmes de transport.
Mohamed Ouldeib est le secrétaire général de l'Association mauritanienne de protection des consommateurs. Pour lui, Cette crise mondiale doit surtout servir de déclic pour l'autonomie du pays.
Si les denrées alimentaires font l'objet d'un trafic vers l'étranger, cela entraînera une augmentation des prix à l'échelle nationale. Compte tenu de la situation mondiale actuelle, nous demandons donc à l'État et au gouvernement d'encourager la production locale, en particulier pour les produits alimentaires de base.
Sur le terrain, la mesure commence déjà à produire ses effets. À certaines frontières, notamment avec le Maroc et le Sénégal, des camions chargés de légumes sont bloqués aux postes frontières. Omar El Hadji Thiam, Nouakchott.
Au Mali voisin, l'armée indique que le préfet de Dioïla, enlevé le 14 février par des hommes armés, a pu échapper à ses ravisseurs il y a de cela trois jours, le 13 mars, dans la zone de Massina, dans le centre du pays. Selon nos informations, le préfet de Dioïla avait été enlevé par les djihadistes du Jnim. Et puis dans le même communiqué, l'état-major affirme que deux militaires maliens, enlevés cette fois le 9 octobre et détenus par des groupes armés terroristes, ont réussi à s'exfiltrer, je cite, d'un camp de réfugiés en Mauritanie avant de regagner le territoire national. Le Mali et ses ONG inquiètent. Les organisations fêtières du secteur associatif ont diffusé ce week-end un texte dans lequel plusieurs organisations s'inquiètent d'un projet de taxe adopté en Conseil des ministres il y a 10 jours. Elle prévoit 10% de prélèvement sur certaines ressources bien particulières, mais les associations redoutent en fait deux choses. D'une part, une réduction de leurs moyens et d'autre part, l'obligation de fait pour les bailleurs internationaux de retirer leur financement. David Bachet.
Les associations maliennes rappellent que l'essentiel de leur financement provient de ressources publiques mises à disposition par les partenaires internationaux et encadrées par des règles strictes qui limitent fortement, voire interdisent leur affectation à des taxes ou prélèvements non prévus. Traduction par le président d'une organisation signataire, des bailleurs vont devoir se retirer et ça va nous faire perdre des milliards. Les centres de santé, les forages, la nourriture pour les déplacés, c'est tout ce que l'État ne fait pas qui subira les conséquences. S'emporte encore ce responsable associatif. Nous sommes reconnus d'utilité publique, mais sans jamais avoir de subvention de l'État, poursuit un humanitaire malien. Nous dépendons des bailleurs internationaux et aucun ne sera prêt à accepter cette taxe. Le communiqué rappelle que la société civile et les ONG internationales paient déjà des impôts, des contributions sociales, créent des emplois, plusieurs dizaines de milliards de francs CFA injectés chaque année dans les caisses de l'État. Les interlocuteurs joints par RFI déplorent que les autorités de transition veuillent ponctionner les ONG sans se soucier des conséquences pour les populations et pour le secteur associatif malien.
David Bachet, le président du Nigeria, est attendu en visite d'État au Royaume-Uni. Bola Tinubu, qui doit arriver à Londres demain. Ce n'est certes pas la première fois qu'il se rend sur place, mais une visite d'État, donc la plus haute d'un point de vue protocolaire, en revanche, c'est une première depuis 37 ans.
Le Nigeria, où un observateur distrait aurait bien du mal à s'y retrouver dans le paysage politique.
Parce qu'il change et qu'il change très vite. Nous sommes à moins d'un an de l'élection présidentielle. Sauf que le PDP, le Parti démocratique populaire, qui a été notamment tête de pont de l'opposition, est aujourd'hui au bord de l'implosion. Et alors qu'une nouvelle coalition de l'opposition, justement l'ADC, se cherche déjà un candidat pour l'année prochaine. Lisa Fabian.
Le Parti démocratique populaire, qui a gouverné le Nigeria pendant 16 ans jusqu'à 2015, n'est plus que l'ombre de lui-même. Après de nombreuses défections, dont celle du gouverneur de l'État de Zamfara la semaine dernière, seules deux régions du Nigeria sont encore contrôlées par le PDP, enlisées dans une guerre de factions complexe. Le 9 mars, la Cour d'appel a confirmé une décision de la Commission électorale indépendante du Nigeria qui annule les résultats de la dernière convention nationale du PDP, laissant le parti sans direction et en difficulté pour se préparer à la présidentielle. En parallèle, la nouvelle coalition de l'opposition, l'ADC, vient d'annoncer la date du 14 avril pour sa première convention nationale. Le Congrès démocratique africain vient de lancer une campagne de mobilisation pour faire élire ses dirigeants à tous les niveaux avant l'organisation de primaires pour désigner son candidat à l'élection présidentielle. L'ancien leader du Labour Party, Peter Obi, et l'opposant Atiku Abubakar, cofondateur du PDP, comptent parmi les célèbres transfuges ayant rejoint l'ADC ces derniers mois.
Lisa Fabian à 7h37 à Lagos. Le foot dans la suite de ce journal, mais le foot version prétoire, puisque le tribunal de Rabat ouvre aujourd'hui le procès en appel des 18 supporters sénégalais, ceux qui sont détenus au Maroc depuis fin janvier, et la finale de la CAN, remportée par le Sénégal, et ses scènes de violence autour de la fin du match. On rappelle qu'en première instance, ils avaient écopé de peines allant de 3 mois à 1 an de prison ferme pour hooliganisme. Sofiane Amazian.
Selon l'avocat de la défense, Patrick Cabou, l'organisation de ce procès en appel a de quoi surprendre. Nous devions réceptionner un certificat de non-appel pour entamer de nouvelles procédures, mais le parquet nous a informé tardivement avoir fait appel, d'où cette audience en temps record, explique Patrick Cabou. Explorer d'autres pistes et faire jouer les relations diplomatiques entre les deux pays pour négocier une grâce royale, une possibilité certes, mais seulement en cas de jugement définitif des 18 prévenus, souligne l'avocat de la défense. Ce procès en appel, demandé conjointement par le parquet et les parties civiles, a pour objectif, selon Patrick Cabou, d'alourdir les peines de ses clients qui, je cite, « n'ont pas fait appel car ils ne se reconnaissent pas dans ce jugement. Pour les faits qui leur sont reprochés, ils risquaient jusqu'à 2 ans de prison. » Concernant l'état physique et mental des 18 supporters sénégalais, difficile de répondre pour l'avocat qui confie n'être en contact qu'avec 5 d'entre eux. Ils vont bien, se préparent pour le procès, même s'ils ne comprennent toujours pas leur détention, a-t-il précisé à RFI.
Sofiane Amazian, le foot sur les terrains, c'était aussi la suite d'un week-end de Coupe de clubs sur le continent africain, avec notamment en Coupe de la Confédération cette belle victoire des Congolais de Maniema Union sur l'USM Alger, quart de finale aller. Antoine Grenier en parlera dans une heure dans son journal des sports. La République du Congo, au lendemain de son élection présidentielle, compilation des résultats après un dimanche de vote. Les électeurs appelés à départager 7 candidats, dont le président sortant Denis Sassou Nguesso. Il brigue un 5e mandat consécutif après 41 ans cumulés à la tête du pays. On ne connaît pas encore la date de proclamation des résultats officiels. Retour au Sénégal, proprement dit, pour la suite de ce journal, avec Dakar qui signe avec Washington un protocole d'accord sur la santé. On parle de 135 millions de dollars sur 5 ans et un schéma qui est désormais bien rodé. Il couvre des domaines prioritaires, le VIH-Sida, le paludisme, la surveillance des maladies ou encore la préparation de potentielles épidémies. Washington apportera 63 millions de dollars, Dakar en co-investira 72 millions. Un accord présenté comme un partenariat équilibré, mais qui soulève encore plusieurs questions, Juliette Dubois.
Selon le gouvernement sénégalais, les États-Unis apportent 63 millions de dollars et le Sénégal 72 millions sur 5 ans. Dakar prenant progressivement le relais sur des postes aujourd'hui couverts par Washington, approvisionnement en produits médicaux ou financement des agents de santé de première ligne. L'accord ne comporte pas de volet migratoire, affirme une source au ministère de la Santé, contrairement à certains accords similaires signés avec d'autres pays africains où l'accueil de personnes expulsées par les États-Unis faisait partie des contreparties. Sur les données, le ministère précise qu'aucun dossier médical individuel ne sera transmis, uniquement des statistiques agrégées pour vérifier que les fonds sont bien utilisés, un mécanisme classique selon le ministère. La question s'était posée en termes plus sensibles au Kenya en décembre. Washington avait alors demandé à Nairobi un accès direct aux données sur les agents pathogènes à potentiel épidémique, des informations jusqu'alors transmises uniquement à l'OMS. Cet accord s'inscrit dans la stratégie America First Global Health de l'administration Trump. Depuis janvier, Washington a signé des accords similaires avec une quinzaine de pays africains, court-circuitant les organisations multilatérales dont l'OMS que les États-Unis ont officiellement quitté en janvier. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Et l'on parle maintenant de réchauffement du climat dans le dossier de ce journal et de ses conséquences déjà très concrètes sur notre quotidien. On le fait grâce aux travaux scientifiques publiés dans l'Environmental Research Health la semaine dernière qui montrent à quel point le réchauffement climatique frappe déjà la vie de tous les jours. 2,7 milliards de personnes qui vivent dans des zones de la planète où la chaleur a déjà des conséquences sur les activités quotidiennes basiques, Lucille Gimbert.
Monter les escaliers ou faire le ménage à la maison, ces tâches semblent anodines, mais pour des centaines de millions de personnes dans de plus en plus de régions du monde, il est désormais dangereux pour la santé de réaliser ces activités physiques de base en plein jour et au plus fort de l'été, même pour les moins de 40 ans en bonne santé. En cause, la hausse mondiale des températures, alimentée par le fait que nous brûlons du gaz, du charbon et du pétrole pour nos activités. Pour les plus âgés, qui ont plus de mal à transpirer et donc à refroidir leur corps, c'est plus difficile encore. D'après les scientifiques, en moyenne, les plus de 65 ans subissent aujourd'hui 900 heures par an où la chaleur limite fortement leurs activités extérieures durant la journée. C'était 600 heures en 1950. Et dans certaines régions tropicales et subtropicales, c'est même un quart de l'année. Une question géographique, mais aussi sociale. Les plus pauvres sont les plus touchés. Le défi est particulièrement important en Asie du Sud, Inde, Pakistan, Bangladesh, dans les pays du Golfe Persique et dans une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest.
Et l'Afrique centrale n'est pas particulièrement épargnée non plus d'ailleurs. En témoigne tout de suite ce reportage à Bangui, alors que, en théorie, la saison sèche est censée déjà avoir touché à sa fin, Rolf Steph Domialeux.
Dans le quartier populaire de Yassimandi, le thermomètre dépasse 40 degrés. Le corps recouvert de sueur, Marie-Thérèse est allongée sur une natte à l'ombre d'un manguier. Âgée de 68 ans, elle se sent asphyxiée par la forte chaleur.
Je me sens très fatiguée, souvent étourdie. J'ai régulièrement des vertiges et mon cœur bat très vite. Comme vous pouvez le constater, ma maison est en tôle et pendant la saison sèche, l'air y est constamment étouffant et brûlant.
Deux éventails à la main, Aline, vendeuse au marché central, raconte une situation devenue habituelle.
On boit beaucoup d'eau, mais ce n'est pas toujours suffisant. Parfois, je passe la nuit à éventer mon bébé pour qu'il puisse respirer correctement. À défaut d'électricité, les ménages déjà vulnérables n'ont pas la possibilité d'utiliser des ventilateurs ou des climatiseurs.
Les hôpitaux constatent également une augmentation des maladies liées à la chaleur, déshydratation, épuisement thermique, hypertension ou encore des troubles respiratoires. Mathurin Bangué, médecin à l'hôpital communautaire de Bangui.
Pendant les périodes de forte chaleur, le corps perd beaucoup d'eau et de sels minéraux. Il est donc essentiel de boire régulièrement, de rester à l'ombre et d'éviter les efforts physiques intenses. Il faut également porter des vêtements légers et clairs. On conseille aux patients de manger léger, c'est-à-dire des fruits, des légumes et des aliments riches en eau.
Même si aucune statistique n'est encore disponible, beaucoup de personnes ont déjà perdu la vie à cause des fortes chaleurs. Rolf Steph Domialeux, Bangui, RFI.
À Bangui, il est 7h44, la suite d'RFI Matin avec Andréane Mellard.
Merci Édouard Dupénoatin. RFI à Paris et Brazzaville, il est 7h44 tout de suite, c'est notre revue de presse africaine. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une, vers un cinquième mandat pour Denis Sassou Nguesso.
Les résultats officiels de l'élection présidentielle d'hier au Congo ne seront connus que dans 2 ou 3 jours, mais les jeux sont faits. À 82 ans, Denis Sassou Nguesso, le président sortant au pouvoir depuis 42 ans, devrait conserver son trône, l'empereur. Et d'ailleurs, l'un de ses surnoms relève le monde Afrique, de même que le patriarche ou encore l'éléphant. Malgré des accusations de fraude répétées à chaque scrutin depuis 20 ans, pointe le journal, Denis Sassou Nguesso conserve le pouvoir pour convaincre une population qui s'est appauvrie ces dernières années en dépit d'un sous-sol riche en pétrole. Ses équipes vantent la stabilité et la paix apportées par son régime. La dextérité du pilote aguerri, souligne Pierre Moussa, son directeur de campagne, comme s'il souhaitait désamorcer les doutes sur son âge et ses capacités. Le candidat du Parti congolais du travail a multiplié les apparitions durant la campagne, participant à 15 meetings en l'espace de 13 jours. À l'international, nul ne s'émeut de l'autoritarisme du régime, souligne encore le Monde Afrique. Un ancien diplomate en poste à Brazzaville définit Denis Sassou Nguesso comme un chef de clan un peu mafieux qui a opéré des détournements massifs issus de la rente pétrolière pour ses proches. Le président congolais est surtout à la tête d'un État qui est le troisième producteur de pétrole d'Afrique subsaharienne et qui a su se rendre incontournable auprès de ses partenaires étrangers.
Le scrutin d'hier s'est déroulé dans un blackout numérique total, relève pour sa part Afrique.com.
Oui, Internet coupé, comme ce fut le cas en 2021, de même qu'en 2016. La répétition de cette pratique à chaque échéance électorale majeure conforte les critiques de l'opposition et des organisations de défense des droits numériques qui y voient un outil de contrôle du flux d'informations en période sensible. Pas de libre expression sur le net, donc, et l'opposition est depuis longtemps bâillonnée, pour ne pas dire neutralisée. Les deux principales figures de l'opposition, rappelle Afrique.com, le général Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombisali sont emprisonnés depuis l'élection contestée de 2016, condamnés à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Des poursuites largement considérées comme politiquement motivées, relève le site panafricain. En juin dernier, le ministère de l'Intérieur a suspendu 15 partis d'opposition, dont plusieurs envisageaient de former une coalition pour contester le scrutin. Et le mois précédent, le leader des socialistes congolais, Lassim Bouiti, candidat déclaré, a été enlevé par des hommes masqués et retrouvé mort, torturé plusieurs jours plus tard.
À lire dans Le Point Afrique, le reportage de sa correspondante à Brazzaville.
La jeunesse congolaise entre ferveur et résignation, affirme-t-elle, avec notamment le témoignage de Merveille, étudiante de 20 ans, qui exprime un ras-le-bol général, le non-paiement de ses professeurs à l'université, les coupures d'eau chroniques et l'absence totale de perspectives professionnelles. C'est le village ici, soupire-t-elle, les diplômes dorment à la maison, ma mère et mon père sont au chômage, je n'ai pas confiance en Sassou pour me promettre un meilleur avenir. Pourtant, paradoxe, Congolais oblige, relève la correspondante du Point Afrique. Merveille porte le visage du président sur un t-shirt, sur sa poitrine. Il reste le sage de notre pays, justifie-t-elle, comme pour s'excuser de cette contradiction. Un culte de la personnalité qui, au Congo, demeure l'ultime rempart contre l'incertitude de l'après.
Pour autant, analyse le Djeli, en Guinée, cette apparente résignation ne signifie pas nécessairement que la situation restera figée indéfiniment.
Dans un pays où plus de 60% de la population a moins de 18 ans, les frustrations sociales pourraient finir par s'exprimer plus ouvertement, s'exclame le Djeli. La situation est d'autant plus sensible que le Congo représente environ 30% de la production pétrolière de la zone CEMAC, alors que les indicateurs sociaux restent préoccupants. Le taux de chômage y est de 42% et plus de la moitié des Congolais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Pour l'heure, constate encore le Djeli, Denis Sassou Nguesso et son régime donnent l'impression d'être invulnérables, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il faille considérer les Congolais comme définitivement résignés ou incapables de reprendre leur destin en main. L'histoire politique du continent africain montre que des régimes apparemment inébranlables peuvent du jour au lendemain être rattrapés par la colère populaire ou par des dynamiques politiques inattendues.
Frédéric Couteau, on vous retrouve tout à l'heure à 8h15.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mélard.
En France, les résultats du premier tour des élections municipales continuent de tomber jusqu'à ce matin. La candidate d'extrême droite à Paris, Sarah Knafo, pour le parti Reconquête, est qualifiée pour le second tour. Paris où Emmanuel Grégoire, pour le Rassemblement de la gauche et des écologistes, sauf LFI, arrive largement en tête à l'issue de ce premier tour devant Rachida Dati pour la droite. L'entre-deux tours va être crucial dans la capitale française. Quelles alliances vont se mettre en place? Même question pour d'autres villes, dont Marseille, où le maire sortant devance l'extrême droite, le Rassemblement national. Nous serons à Marseille dans le prochain journal pour un reportage et puis édition spéciale à suivre à 8h10. Lendemain d'élection présidentielle au Congo-Brazzaville, on en parlait à l'instant dans la revue de presse. Reportage à suivre dans le journal de 8h. Et puis le Moyen-Orient et ses nouvelles frappes rapportées cette nuit à Téhéran. Les Émirats Arabes Unis également annoncent ce matin intercepter des missiles et des drones en provenance d'Iran concernant la paralysie du détroit d'Hormuz. Le Japon et l'Australie ont fait savoir ce lundi qu'ils n'envisageaient pas pour l'instant d'envoyer des navires de guerre pour sécuriser ce point de passage stratégique. Après des déclarations agressives entre le TPLF et le gouvernement éthiopien, après des combats en janvier qui ont opposé les troupes fédérales aux forces tigréennes dans la région du Tigré, comment analyser vraiment la situation concernant cette région du nord de l'Éthiopie? Le climat, en tout cas, est toujours plus tendu. Le TPLF, le Front de Libération du Peuple du Tigré, la force politico-militaire la plus importante de la région, et les autorités d'Addis Abeba s'accusent mutuellement de vouloir une nouvelle guerre après le conflit sanglant de 2 ans qui les avait opposés, faisant plus de 600 000 morts. Les habitants aujourd'hui fuient la région en nombre de peur d'un nouveau conflit. On en parle ce matin avec notre grand invité Afrique, Sabine Planel, chargée de recherche à l'IRD. Elle répond à Clotilde Hazard.
Sabine Planel, bonjour.
Bonjour.
Depuis plusieurs mois, les tensions remontent entre le TPLF et le gouvernement éthiopien. Est-ce qu'on assiste à une simple crise politique interne ou est-ce que les ingrédients d'un nouveau conflit régional d'ampleur sont déjà réunis?
Je pense qu'on assiste à un phénomène de marche à la guerre. On a une escalade des tensions à la fois politiques et de la préparation militaire qui est assez nette. Récemment, le numéro 2 du TPLF qui attestait de la présence de soldats érythréens dans le Tigray, des déclarations extrêmement agressives de la part des deux camps et la déclaration du chef de l'état-major éthiopien disant que le TPLF serait éliminé.
Et des positionnements de troupes, c'est bien ça ?
Et des mouvements de troupes, oui, qui ont été suivis, alors, et qu'on a vu et dans la capitale, et dans la région Afar, et dans la région Amara, montée vers le nord du pays. La mobilisation qui est un peu plus simple, on va dire, de l'armée éthiopienne, et pour l'instant encore un peu plus lente dans le Tigray, parce que le Tigray se remet très difficilement du conflit précédent, et que les populations civiles ne sont pas forcément pour le moment très enthousiastes à l'idée de rejoindre le front.
Plus de 3 ans après, qu'est-ce qui a réellement été appliqué des accords de Pretoria et qu'est-ce qui reste encore bloqué ?
Tout reste encore bloqué, puisqu'en fait, il ne s'agissait pas d'accord de paix, mais d'un accord de cessation des hostilités et qui ne s'est pas traduit, en fait, par des mesures concrètes, soit du désarmement et donc du repositionnement, en fait, des troupes armées du TPLF, encore moins du retour à un statut territorial antérieur au début des hostilités, c'est-à-dire d'une réintégration de l'ouest du Tigray dans la région État du Tigray, encore moins d'un retour des déplacés internes dans leur région d'origine et particulièrement dans l'ouest du Tigray, rien n'a été mis en œuvre. Et moins encore une démarche de justice pour qualifier les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité qui ont été perpétrés pendant les 2 ans de guerre dans la région du Tigray.
Il y a aussi la présence de l'Érythrée, dont l'armée avait été très impliquée aux côtés de l'armée fédérale pendant la guerre. Dans les tensions actuelles, quel rôle joue vraiment Asmara ? Est-ce qu'on peut parler d'une alliance avec le TPLF ? Est-ce qu'un conflit armé direct entre l'Éthiopie et l'Érythrée est un scénario crédible ?
Oui, on assiste très vraisemblablement à un retournement d'alliance majeure. Il y a eu un rapprochement politique entre la branche historique du TPLF et Asmara. Il s'avère que ce rapprochement politique a sans doute des implications militaires. Et bien entendu que cette alliance politico-militaire entre le TPLF et l'Érythrée suppose que l'Érythrée est maintenant dans le camp ennemi d'Addis Abeba. Et de toute façon, les déclarations répétées d'Abiy Ahmed pour un accès à la mer Rouge et pour récupérer le port d'Assab qui avait été rétrocédé à l'Érythrée supposent une entrée en conflit, une prise par la force d'un territoire que l'Érythrée n'a pas l'intention de rétrocéder.
Quels sont les enjeux des prochaines élections législatives qui déterminent le Premier ministre et qui arrivent en juin ? Est-ce que cela joue sur les tensions actuelles ?
Les enjeux, ils sont extrêmement importants. Les oppositions sont très nombreuses dans l'ensemble de l'Éthiopie, hein, pas que avec le TPLF. L'Éthiopie connaît une situation sécuritaire, économique, qui est catastrophique, et donc le soutien populaire au régime actuel est absolument pas garanti. Les deux camps ont intérêt, en fait, à soit conduire les élections en situation de guerre pour Abiy, parce que la dernière fois, ça lui a valu un soutien populaire d'Union nationale assez important, soit pour le TPLF, qui pour l'instant officiellement n'est plus un parti reconnu. Les deux camps gagneraient en fait à une entrée en guerre pour réussir à mener les élections. Il est très possible, selon moi en tout cas, que le conflit se déclare avant la tenue des élections.
D'accord, merci beaucoup Sabine Planel.
Je vous en prie.
Entretien avec Clotilde Hazard. Maman, ce matin avec vous, on parle résultat d'élections présidentielles au Gondwana. Vous nous dites que les habitants attendent ces chiffres dans la fébrilité, contrairement à président fondateur.
Oui, au Gondwana, le sport national, avant même le football, c'est l'élection présidentielle. Elle est dans toutes les conversations, 24 heures sur 24. Quand on s'arrête pour se reposer d'avoir trop parlé élection, eh ben on parle football. Mais une chose est spécifique à la très très démocratique République, c'est qu'on ne s'apesantit jamais sur l'après-élection, sur ce qui se passe une fois que le vin a été tiré et intégralement servi à la table du vainqueur à côté du champagne, déjà au frais depuis le début du mandat. Attention, je ne parle pas des déclarations de victoire sur la base de projections provisoires avant les résultats officiels, hein, ou alors des communiqués combinatoires de contestation, gagnant modeste par-ci, perdant qu'il a très mauvaise parce que convaincu qu'on lui a volé sa victoire. Non, je parle de ce qualificatif président sortant. Il devient quoi ? Bah oui, quand comme prévu, depuis puis avant même les élections, le président sortant a gagné. On l'appellera comment désormais? Ben oui, parce qu'il y a certains gondouanais indécrottables naïfs qui croyaient que parce qu'on l'appelait président sortant, eh ben il n'était plus l'homme fort du pays. En très très démocratique république, président sortant signifie que l'homme fort sort de son palais pour venir à la porte t'accueillir, te serrer la main et te faire la visite du palais et te raccompagner après. Tu vois, il n'est sortant en rien du tout. C'est toi le sortant, car c'est toi qui ressort de son palais, qui est à lui parce qu'il est à lui. Tu ressors du jeu électoral où on t'a gentiment accepté puisque le candidat sortant te raccompagne jusqu'au portail pour être sûr que tu t'en iras jusqu'aux prochaines élections présidentielles. Donc, une fois qu'il t'a raccompagné au portail et que t'as repris le chemin de ta vie d'opposant, de postulant au poste, que fait le candidat sortant? Ben, il donne au pressing sa veste de candidat sortant pour faire enlever la poussière, les odeurs et la crasse accumulée durant toutes ces semaines de meetings obligatoires dans le Gondwana profond. Meetings obligatoires et fatigants pour faire croire aux électeurs gondwanais que leur vote compte, pour qu'ils croient que c'est eux qui font rester le président sortant. Mais entre nous, quand quelqu'un est sortant, on suppose qu'il a fait ses bagages au cas où. Non, normalement, ses cartons sont déjà faits, emballés, les photos de famille décrochées du mur, le frigo vidé et nettoyé, tout ça, quoi, au cas où. Mais là, non, le frigo est plein, la cuisine chauffe à fond et surtout la brosse à dents et la pâte dentifrice n'ont même pas bougé de la salle de bain. Donc, au Gondwana,